Ben, si tu veux, c'est un petit peu aussi le même problème. Enfin, je m'ennuie de parler de moi, ben, puisque tu vas me cerner, tu vas me piéger de toute façon.
L'instant 2.
L'instant 2.
L'instant 2. Vous allez rencontrer quelqu'un.
On m'a souvent dit, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Je crois pas à ça. Je crois qu'il faut avoir une loi, il faut être sa vérité. Il faut se battre proprement, loyalement. Il faut savoir que chaque jour est un combat. Le lendemain, il faut tout refaire. Il faut aller chercher. C'est merveilleux, aller chercher les gens qui veulent pas, qui se refusent, par pudeur, comme ça, lentement, on ne peut pas tricher.
Un invité, partez à sa rencontre, prenez le temps de partager. L'instant 2
sur Radio Grenouille.
Tout commence souvent par un sourire. Vous savez, celui qui rend la voix plus belle quand elle traverse le micro. Dans le jargon, c'est ce qu'on appelle avoir du sourire dans la voix. Dans cette prise directe des ondes, aucune place au superficiel et au manque de sincérité, tout ça s'entend, parce que la voix ne manque très rarement, pour ne pas dire jamais, et si on triche, ça y est, c'est raté. Tous les dimanches à 14h, notre invitée fait briller le micro rouge de France Inter. Elle y a son émission, autant vous dire que c'est un peu le Graal pour les passionnés du transistor. Le plus intéressant dans cette affaire, c'est que Kathleen, c'est le genre de femme qui peut vous dire en pleine émission ça.
C'est un film formidable, vous l'avez compris évidemment, parce que moi je suis enthousiaste, donc j'aime bien le dire, j'aime bien le partager, donc j'invite tous les auditeurs à s'y rendre. Il est sorti mercredi en salle, Corniche Kennedy, d'après le livre de Maïlys de Kerangal, de Dominique Cabrera, avec Alain de Maria, Kamel Kadri et plein d'autres acteurs formidables. Merci à vous.
Vous l'entendez, la sincérité, là, dans ce sourire? Vous l'avez noté, ce souffle vagabond attrapé au vol par les oreilles des sensibles, des tendres, de celles et ceux qui osent être émus par la beauté des petits riens, bref, par la beauté du monde? Eh bien voilà, Kathleen Evin nous parle sans phare, et vous pensez qu'elle est bien tombée même à pic sur le 88.8 FM, comme on dit encore? Nous qui assumons pleinement de partager chaque mois la couleur des sentiments. Alors Kathleen, oui, on vous le dit, je vous le dis, on vous aime. Et en ce mois d'avril, c'est à notre tour de vous découvrir de vos fils. C'est à nous de vous poser des questions, comme vous le faites si bien avec vos invités. Une sorte de mise en abîme de la radio, totale quoi. La radio dans la radio. Et j'ose même le jeu aujourd'hui, j'ose le jeu en vous disant que je suis très émue de vous recevoir et de recevoir Kathleen Evin. Parce que dans le sourire de ma voix, il y a un peu de cette nana-là. Bienvenue à tous et à toutes, comme toujours dans l'instant 2 sur Radio Grenouille, parce que vous êtes dans la radio avec nous et vous êtes toujours évidemment chez vous.
Un moment s'il vous plaît.
Bonjour Kathleen Evin.
Bonjour Mélanie.
Comment ça va?
Mais je suis très intimidée parce que c'est pas mon métier de répondre aux questions. C'est moi qui les pose. Donc c'est... Mais en même temps, c'est assez confortable parce que j'ai pas travaillé du coup. Donc oui, c'est un exercice curieux pour moi, mais on va essayer de le mener à bien.
Vous avez le sentiment de travailler en ce moment? On est dans un café qui n'est pas celui des ondes. On voulait se mettre précisément en face de la maison de la radio, où on peut croiser à peu près tout Radio France entre midi et 22h. Là, vous avez l'impression de travailler assise dans votre canapé en cuir?
Ah non, pas du tout.
Ah.
Non. J'ai travaillé toute la journée et là, c'est très étrange. C'est curieux cette sensation de se laisser porter par quelqu'un d'autre. En fait, je me demande si c'est ça que mes invités ressentent aussi. C'est très nouveau pour moi.
Vos invités, vous en avez eu beaucoup. Faire la liste n'a que peu d'intérêt, peut-être. Faire la vôtre en a un peu plus. Vous les appelez avant, vous leur parlez ou vous laissez comme
non,
beaucoup
jamais,
la place à la spontanéité?
Jamais, surtout pas. Au besoin même, quand avant le micro, avant le rouge, ils sont dans le studio et qu'on commence à dire deux, trois choses sur ce qui nous réunit ce jour-là, je les arrête en leur disant mais non, c'est absurde, vous le redirez pas aussi bien, donc... Arrêtons de parler, parlons d'autre chose, du temps qui fait, de la vie, des enfants, de l'amour.
On parlait de sourire, de simplicité, vous l'avez noté hein, dans ce portrait, je ne sais pas si vous parle,
ça vous touche beaucoup, parce qu'en fait, en vous écoutant, Mélanie, je me disais, heureusement qu'elle est trop jeune pour m'avoir connue à mes débuts à la radio, parce qu'en fait, lorsque Pierre Bouteiller m'a fait rentrer à France Inter, il m'a fait rentrer pour ma dent dure, pour le fait qu'il m'avait connue comme journaliste politique et il trouvait que je disais des choses parfois un peu cruelles ou ironiques ou mordantes. Et il m'a embauchée pour ça, Alors, c'est un exercice différent. Je faisais des chroniques politiques au début chez lui. Donc, Et puis, en plus, je le voyais ravi quand je racontais une histoire un peu drôle, un peu méchante sur les hommes politiques. Et il adorait ça. Et c'est vrai, pendant quelques années, j'ai travaillé dans cette veine-là.
Qui vous dit que je ne vous ai pas écouté
Vous étiez bien trop jeune.
Vous savez, c'est merveilleux, il y a des archives.
Oui, peut-être.
En général, on écoute.
Et du coup, après, quand j'ai eu mes émissions, parce que j'en ai fait d'autres avant de faire L'Humeur Vagabonde, je me suis rendu compte qu'en fait, la vie était trop courte pour qu'on passe sa vie à débiner les autres.
À mordre.
Mordre, c'est pas interdit, mais disons que dans la liste des invités, je vais vers ce que j'aime, vers les gens qui m'intéressent, vers les livres, les pièces de théâtre, les expositions qui m'ont ravie. Quand ça me déplaît, je le fais pas. Donc du coup, le sourire, il est là parce que le plaisir est là.
Vous avez la liberté aussi de choisir de ne faire que seulement ce que vous aimez finalement.
Ben, je dois dire que je l'ai trouvé dans cette radio. Oui, oui.
France Inter, c'est une radio que sincèrement vous aimez. Ça s'entend aussi au micro. Vous trichez pas. Hein. On peut avoir la dent dure et ne pas tricher et aimer ce qu'on fait
en
radio.
Oui, tout à fait. C'est devenu chez moi. Alors, un chez moi étrange parce que on est chacun dans son bureau, chacun dans son truc, dans son monde imaginaire. Et en fait, on n'a plus du tout de réunions. Autrefois, j'ai connu France Inter avec des réunions hebdomadaires de producteurs, d'assistants. Tout le monde parle. Ça ne se fait plus. Donc, on est un peu solitaire. Mais en même temps, avec ce sentiment de participer à un collectif important.
Ça vous manque, cette émulation dont vous parlez, qui effectivement est coupée un peu par des bureaux, des frontières?
Oui. J'en parlais hier avec un copain de la radio et on disait, c'est vrai, ça nous manque un peu. On ne se voit plus parce que, bon, moi j'avais une quotidienne, je voyais donc les gens un peu tous les jours. Mais quand on a une hebdomadaire, maintenant je vois quasiment plus personne.
Comme dans beaucoup de vos interviews, et celle-ci commence de la même manière, qu'elle soit en presse écrite d'ailleurs ou en radio, il y a un nom qui arrive, et ça fait quoi, 5 minutes qu'on est ensemble, c'est Pierre Bouteiller.
Ben oui, je lui dois d'être là à vous parler aujourd'hui. Moi j'étais une journaliste de presse écrite et je pensais que je ne pourrais jamais rien faire d'autre. J'avais, quand mes différents journaux, moi j'en ai quitté certains et d'autres m'ont quitté, j'avais un très grand regret et je ne savais pas très bien quoi faire de ma vie de journaliste. Et Pierre Bouteiller m'a mise au micro et tout d'un coup, un jour, je me suis réveillée en disant « mais c'est là, chez moi, mais c'est plus ailleurs ».
Il nous a quittés, Pierre, il y a quelques jours là.
Oui.
On l'écoute.
Oui.
Vous voulez bien?
Oui.
Oui,
oui, oui, il faut.
Écoutons-le alors et... Oui. Et on revient juste après ça.
L'instant 2.
L'instant 2.
L'instant 2. Vous allez rencontrer quelqu'un.
Je m'appelle Pierre Bouteiller et tous les jours de 9h à 10h sur cette antenne, nous aurons rendez-vous ensemble. Je vous parlerai à partir de ce studio 133 à la maison de l'ORTF.
Bonjour. Quoi qu'il en soit, bonjour.
Née en 1947, fille de parents pauvres mais honnêtes, Mireille Mathieu représente l'aventure la plus typique et la plus réussie du système à l'intérieur duquel fonctionne le show business français. Pygmalionisé par une sorte de génie du marketing, Johnny Stark, plus connu dans les chaumières sous le nom de Pépé Jou, Mireille Mathieu est la vedette française par excellence, assurant depuis 1965 la relève d'Edith Piaf, dont on a su intelligemment lui faire abandonner l'assimilation plus ou moins consciente.
J'espère que je n'ai pas trop rasé les auditeurs, mais en tout cas, je me suis beaucoup desservi parce que entre un bon mot, une impertinence à dire, une sincérité à exprimer et un souci de ménager, faire de la langue de bois et ménager ma carrière, j'ai toujours choisi, j'ai mal choisi puisque j'ai toujours été viré de partout.
Kathleen Evin, l'invitée de l'instant 2 du mois d'avril sur Radio Grenouille, un grand bonheur. On vient d'entendre Pierre Bouteiller. Et notamment l'émission que vous avez diffusée le 12 mars, quelques jours après sa disparition. Où vous l'aviez reçu, c'était en quelle année?
En 2006.
En 2006.
Il avait sorti un livre de souvenirs qui s'appelle Radioactif.
Oui.
Et il me disait, oh, Radioactif, pour les gens de radio, c'est un pléonasme.
Pour lui,
Oui, surtout pour lui. Quel talent. Ça fait plaisir d'entendre comme ça un petit kaléidoscope de ce qu'il faisait. L'autre jour, Vincent Josse a fait une émission le jour où on a appris sa mort, le vendredi. Et il m'a dit d'entrée de jeu, de le définir, de dire qu'est-ce que c'était pour vous, Pierre Bouteiller, l'esprit français. Alors, ça fait très old-fashioned de dire ça, l'esprit français. Non, mais pour moi, ça veut dire quelque chose de très précis. C'était quelqu'un qui, d'abord, travaillait énormément. Moi, quand on avait l'émission, quand il avait son émission à 9h le matin, j'arrivais vers 8h, 10, après avoir déposé mes enfants à l'école. Je le trouvais arpentant le couloir, en train de se mettre son papier en bouche. Mais je savais qu'il était là depuis 6h et que pour faire ce feuillet ancré dans l'air du jour, dans l'air du temps, dans ce qu'il avait lu, qu'il a fait sourire ou râler dans la presse papier, il écrivait un texte qui pour moi était l'esprit français, c'est-à-dire du fond, mais de la légèreté, c'est-à-dire
du panache.
C'était une sorte de, comment dire, on avait l'impression que c'était comme ça qu'il parlait, comme ça, de chic, de panache, de
flagme.
Et en fait, il disait les choses. Il s'était vraiment documenté, mais avec des formules merveilleuses et des chutes toujours très belles, très drôles, et dans un français absolu. Mais c'était l'élégance, fait Holmes.
En parlant de Pierre Bouteiller, vous avez... J'aurais posé la question autrement. C'était qui, Pierre Bouteiller, pour vous, hormis une grande admiration, quelqu'un qui vous a mis au micro et vous avez la justesse de savoir d'où vous venez, Kathleen Evin, et de savoir où vous êtes allée. Mais j'aurais plutôt attrapé au vol ce mot talent que vous avez employé tout de suite. Vous avez dit quel talent ? C'est quoi le talent en radio ?
C'est mystérieux. C'est beaucoup de choses mélangées. C'est être là, c'est-à-dire affirmer sa personnalité, mais ne pas se mettre en avant, ne pas se coucher sur le micro. Alors, voilà, c'est un dosage. Certains n'y arrivent jamais. Bon, certains se couchent sur le micro parce qu'ils trouvent que ce qu'ils disent est vraiment plus intéressant que ce que peuvent dire les invités. Pierre, il savait mettre en valeur ses invités. Il savait intervenir au bon moment pour relancer ou arrêter un petit tunnel, redonner un espace d'oxygène à l'invité. Il avait un don pour ça. Ça, c'est du talent. C'est du vrai talent.
C'est de l'intuition humaine, finalement. C'est quelque chose qui ne s'apprend pas, vraiment, en radio.
Oui, je crois que ça ne s'apprend pas.
On l'a ou on l'a pas ?
Oui, oui.
Vous l'aviez ?
Je pense que ça s'acquiert aussi. Je pense que ça s'acquiert. Je pense qu'au début, quand on démarre, on est sans doute un peu angoissé. Il faut prouver quelque chose. Et au fond, le passage des années vous débarrasse de ce genre de soucis. On n'a plus grand-chose à prouver. On a juste à démontrer aux auditeurs que la porte s'ouvre quand on s'intéresse à la personne qu'on a en face de soi.
Parce que ce n'est pas simplement aimer les gens. Cette valeur n'attend pas le nombre des années, non ?
Oui, aimer, s'intéresser. Moi, je dirais qu'on n'est pas obligé d'aimer. Oui. Moi, j'ai reçu des gens que je n'avais pas envie d'aimer. Pas forcément. On n'est pas là pour aimer tout le monde, mais qui m'intéressait pour quelque chose de précis, pour un regard sur le monde, une attitude d'artiste, un livre, quelque chose. Ça m'intéressait. Voilà.
Une question d'émerveillement aussi, de curiosité et d'accepter aussi parfois d'être bouleversé. C'est aussi ça la radio, c'est d'accepter de recevoir quelque chose dans les oreilles, dans le cœur, dans le corps parfois aussi. Ça se passe
c'est très physique la radio.
Physique.
Vous venez de dire le corps, c'est très très physique. Quand on sort d'une heure de direct, ce que j'ai fait pendant 16 ans, tous les soirs, on est littéralement épuisé.
On est vidé. Ouais. Ce bouleversement-là, de l'autre côté du transistor, et je sais qu'on dit souvent que ça fait ringard de dire de l'autre côté du poste, mais j'adore cette expression.
Oui, moi je le dis tout le temps.
Merci Kathleen Eva. Merci beaucoup. Voilà, j'espère qu'on nous entendra dire ça à nouveau. Et ça se passe en 56. Qu'est-ce qui se passe en octobre ?
Ah oui.
Pour vous, dans votre vie.
J'étais petite. J'étais couchée dans mon lit la nuit. En fait, on habitait un appartement meublé avec mes parents, de briques et de broc.
Et
à Paris. On était arrivés de la Martinique et voilà, mes parents s'étaient installés ils n'avaient pas les moyens d'acheter des meubles. On avait loué un appartement meublé. C'était une vieille dame et donc c'était des trucs. Dans ma chambre, il y avait un piano droit, par exemple. Mon lit butait dans un piano droit et à côté de mon lit, il y avait un énorme meuble radio avec un gros œil vert. Et donc mes parents me disaient, tu t'endors, t'as l'école demain, oui. Et puis dès que j'entendais plus de bruit, j'allumais la radio. Et avec ce gros bouton vert, il y avait un curseur qui se baladait sur des noms de villes, je ne savais même pas où c'était. Helsinki, Stuttgart.
Vous vous souvenez les noms,
oui, je me souviens très bien, mais je le revois là en vous parlant. Et puis j'écoutais des langues étrangères, c'était très exotique. Bon, il y avait aussi les radios françaises, il y avait des dramatiques, policières, et quand j'avais trop peur, je changeais. Alors. Et un soir, comme ça, je me suis retrouvée sur Budapest, le curseur s'est arrêté sur Budapest, et là, il y avait une voix qui m'a arrêtée, qui avait l'air très angoissée, qui parlait très précipitamment dans des tas de langues, et à un moment, en français. Et c'était les derniers mots de la radio libre de Budapest qui nous demandait de venir les aider parce que les chars russes étaient rentrés.
Un appel à l'aide.
Oui, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué.
Szabad Kossuth Rádió Budapest et Szabad Petőfi Rádió Győr.
This is the Association of Hungarian Writers speaking.
Imányi, Kozahit Budapest, Tancél, Szabadné Kossuth.
A Duna-Bencelei Nemzeti Bizottság szabad rádiója a 36 méteres rövid hullámon. Felhívás!
This is Hungary calling. This is Hungary calling.
Ils avaient tous 20 ans, croyant en la dignité de l'homme. Où sont-ils aujourd'hui? C'était une révolte profonde, de combattants sans chef, mais unis par ce désir commun de liberté contre une tyrannie insupportable. Devant le journal du parti qui, malgré 10 ans de pouvoir absolu, n'avait pu convaincre ses hommes, c'est une ruée contre les maximes et les slogans impuissants face à l'esprit fier et libre de la Hongrie. Cette littérature vénéneuse brûle maintenant en un autodafé purificateur. Mais au prix de quel sacrifice était payée cette victoire à laquelle la Hongrie croyait encore en ses jours glorieux?
On vient d'entendre un extrait de Lina de cette période, d'octobre 56 probablement. Hein. On y est là, Kathleen.
Oui.
Quand vous entendez cette radio-là qui arrive juste après cet appel à l'aide qui, effectivement, quand on aime et qu'on aime passionnément la radio physique, la radio sensuelle presque, hein, on se sent appelé comme un ami qui nous appelle à l'aide. Quand vous entendez le commentaire et cette radio-là aujourd'hui avec cette atmosphère sonore d'un autre temps, vous vous dites quoi? Ça reste un souvenir? Vous en êtes nostalgique? Vous trouvez qu'elle a trop changé?
Pas du tout ça. Je ne pensais pas ça. Je ne pensais pas nostalgie. Je pensais que la radio a gardé ce pouvoir d'interpellation, ce pouvoir d'ébranlement, ce pouvoir de raconter le monde même quand on n'y est pas. Et je pense que, en écoutant ça, je me dis quel dommage qu'aujourd'hui on remplisse les ondes de la radio de bavardage, d'inviter people autour de micros qui font des petites blagues à 2 balles, alors que la radio, c'est ça, et c'est beaucoup plus fort que la télé, parce qu'on est tellement submergé d'images qu'on ne voit plus, on voit pas derrière les images, on est sidéré par l'image. La radio nous laisse réfléchir en homme libre.
Et nous laisse nous créer nos propres images.
Oui.
Le dernier émoi de femme de radio que j'ai eu, c'était d'entendre, je crois sur France Inter ou peut-être sur France Bleu, parce que je prenais le micro quelques heures après, d'entendre la mort de Léonard Cohen. J'étais dans mon bus, à Marseille, et j'écoutais la radio avant de la faire, enfin, d'essayer humblement de la pratiquer, et ça m'a totalement bouleversée, alors que bon...
Oui, mais je comprends, moi aussi. Ouais.
Voilà.
C'est drôle parce que Léonard Cohen... c'est mon époque, hein, c'était les disques que j'écoutais quand j'étais étudiante. Lui, Bob Dylan, John Baez, après mai 68, c'était vraiment ça. Et j'ai eu cette chance absolument inouïe d'il y a 3-4 ans. Il est passé à l'Olympia et j'ai eu la chance d'y aller. Mais c'est un moment qui restera gravé. J'ai gardé le ticket il est sur mon frigo et je le regarde tous les matins et je dis « Oh, t'y étais, quelle chance tu as !» Et moi, je trouve que la voix de Leonard Cohen, voilà, ça transporte.
Vous avez choisi de nous transporter sur Radio Grenouille, c'est votre choix. Alléluia, Kathleen Evin, c'est votre choix musical. Pourquoi celle-ci? Pourquoi pas Suzanne? Pourquoi pas Chelsea Hotel? Pourquoi précisément Alléluia? Parce qu'elle rapproche aussi beaucoup d'oreilles, peut-être.
Oui, je l'aime beaucoup chantée par Jeff Buckley aussi, par tant d'autres. Mais je trouve que Leonard Cohen, il y met quelque chose qui me touche infiniment, qui n'a rien à voir avec la religion. Je trouve que cette voix, j'ai pas de défense devant ça. Et je trouve que c'est bien de se laisser bousculer.
Kathleen Evin, sans défense, Alléluia, sur Radio Grenouille, sur le 88.8. On écoute Leonard Cohen ensemble. Et simplement rajouter un mot, Kathleen, à ça. Vous venez de dire que vous avez du mal à expliquer ce que procure Leonard Cohen sur vous. Vous êtes animatrice radio. Est-ce que vous le revendiquez comme ça? Aussi animatrice de l'émission L'Humeur Vagabonde?
Je suis journaliste. Productrice.
Parce que animatrice, ça veut dire mettre de l'âme, si on reprend littéralement les choses.
J'aime pas ce mot-là. Non. J'anime rien. C'est dans les supermarchés qu'on anime, dans les galeries commerciales, on fait de l'animation. Là, je fais pas du tout d'animation.
Ah, d'accord.
Non, je pose des questions. Je laisse les gens parler. Je choisis des archives. Je construis mon émission. Je suis journaliste. C'est mon métier. Et je suis devenue productrice de radio.
Très bien, ça c'est dit. Vous avez encore la dent dure, c'est bien. Ça se perd pas ce genre de choses. Leonard Cohen sur Radio Grenouille. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. 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 Hallelujah.
Hallelujah.
Vous êtes toujours dans l'instant 2 sur Radio Grenouille. Presque sur la corniche Kennedy. Vous êtes peut-être en train de faire du vélo en écoutant le podcast de cette émission, voire le direct.
Ah, corniche Kennedy.
Ah, Catherine Evin. C'était beau ça.
Quelle beauté.
Quelle belle émission vous nous avez fait autour de Marseille. Merci. Alors, merci. Mais d'avoir quel beau donné, film. Mais quel beau film et quelle belle ville.
La beauté de Marseille, mais c'était à tomber par terre, quoi. On était dedans, en plus, elle a su filmer Dominique Cabrera, mais elle a laissé passer l'air, le vent, la beauté de ces gamins. Qu'est-ce que c'était beau, ce film. J'ai plongé dans la beauté, là.
Vous avez plongé dans la Méditerranée. Ouais. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu Corniche Kennedy, qui n'ont pas entendu l'humeur vagabonde sur ce film magnifique sur Marseille, écoutons juste un extrait de votre émotion face à ces deux jeunes qui étaient dans votre studio à ce moment-là.
L'instant 2.
Prenez le temps de partager.
Sur Radio Grenouille.
Quand j'ai joué les scènes avec Lola, j'ai coupé, la scène est finie, tout ça, et que je suis rentré chez moi, je suis rentré avec une drôle d'énergie. Je ressentais encore ce sentiment que je devais jouer, mais cette fois c'était dans ma vie privée, c'était chez moi, et je me disais, mais en fait l'amour c'est bon, et pourquoi je m'en passe? Pourquoi je me braque comme ça? Pourquoi je suis... Est-ce que j'irais pas plutôt dans ma vie de tous les jours aller un petit peu chercher l'amour, aller chercher ces sensations qui font du bien? Et en fait, les scènes avec Lola m'ont réveillé. Dans ma vie, je ne sors pas avec 15 000 filles. Mais voilà, au moins j'ouvre les yeux, je suis ouvert et c'est beaucoup mieux. Les scènes d'amour, elles m'ont ouvert à l'amour. Voilà.
Kamel Kadri, qui est votre invité à ce moment-là, Kathleen Evin, dans votre studio sur France Inter, dans votre émission L'Humeur Vagabonde. Il y a un silence qui en dit long.
Ah, mais
votre silence sur l'émotion que vous ressentez quand on entend ça.
Lui et les deux d'ailleurs, ces deux jeunes acteurs dont c'était le premier rôle, ils m'ont bouleversé complètement. Leur sincérité, et puis, alors on dit toujours, souvent les politiques et souvent les bien-pensants disent « Ah, la culture, naturellement, qu'est-ce qu'on en a à faire, ça change rien au problème ». Ben voilà, ça n'a changé que la vie de ces deux gosses, ces deux jeunes hommes. Mais ça l'a vraiment changé profondément.
Qui a appris l'amour. L'entendre. Là, il nous dit « j'ai appris l'amour ».
Oui, il a appris d'autres choses. Il a appris à faire confiance aux adultes, aux gens qui viennent d'ailleurs et qui ne viennent pas de sa cité. Dominique Cabrera leur a ouvert les portes de... Je ne sais pas de quoi, de la vie peut-être. D'une autre vie en tout cas, j'espère, pour eux. Ils sont formidables.
Quand vous êtes au micro à ce moment-là... En direct et on n'a rien à rajouter. C'est
non,
ça en fait.
Non,
ce silence, c'est au-delà de l'émotion que vous ressentez.
Ah, oui, mais je veux dire, toute réflexion de ma part aurait été d'une vulgarité horrible, quoi. Il avait dit ce qu'il avait à dire et voilà, nous on n'avait pas à rajouter quelque chose derrière, c'est sûr.
Les mots de vos invités et des moments comme ça d'une grande pudeur en même temps. Il a des mots qui sont très. Très juste mais très fin, il se laisse aller lui aussi, ça y est, on le sent, se laisser aller, il oublie le micro, c'est ce que vous essayez d'avoir
oui,
au final.
Quand on arrive à
vous
ça,
le cherchez quand même, on le cherche
oui,
peu,
on le cherche,
évidemment.
Bien sûr qu'on le cherche, quand
et
on
quand
le trouve,
ça arrive,
quand ça arrive, c'est un don du ciel, quoi, ça arrive, c'est formidable, on a gagné notre journée,
Ça vous est arrivé souvent? Là, on prend l'exemple marseillais aussi de Corniche Kennedy.
Oui, avant L'Humeur Vagabonde, c'est arrivé dans L'Humeur Vagabonde, c'est vrai. Mais avant L'Humeur Vagabonde, je faisais une émission qui s'appelait Éphéméride. Et j'avais une ambition, je l'ai avoué qu'après, parce qu'avant, d'ailleurs, je n'aurais pas mis de mots dessus, c'était un peu absurde. J'avais envie de raconter l'histoire de France à travers la génération qui avait connu la guerre et à travers leur mémoire. Et la question que je posais avant de faire mes émissions, je leur demandais qu'ils me donnent une liste, c'était de quoi vous souvenez-vous? Voilà. Qu'est-ce qui a marqué votre mémoire depuis votre enfance jusqu'à aujourd'hui? Et je savais, comme c'était des hommes et des femmes qui avaient traversé les années de guerre, de décolonisation, qu'il y aurait une histoire de France qui se dessinerait. Et c'est ce qui s'est passé. Et là, j'ai découvert... Alors, on parlait tout à l'heure de Budapest. Alors là, j'ai découvert la puissance de l'archive radio quand on tombe dans les archivina sur exactement ce que mon invité avait entendu à l'âge de 6 ans, 12 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, peu importe. quand il s'était arrêté dans sa liste sur un événement et qu'il l'avait entendu à la radio et que je lui ressortais exactement ça, moi j'ai vu des hommes et des femmes très lancés dans la vie, très sûrs d'eux, des professeurs, des gens importants, pleurer. J'ai dû arrêter, parfois c'était une émission enregistrée, donc je pouvais arrêter. J'ai dû arrêter, leur chercher un verre d'eau, un café pour qu'ils reprennent leur souffle. La puissance d'évocation de la radio, c'est magnifique.
Kathleen Evin, vous me donnez une transition toute tracée, ou alors un joli hasard, je ne sais pas s'il y a des hasards dans la vie, mais en tout cas il y a quelqu'un. Dans cette émission, dans l'instant 2, on essaie aussi de donner des choses à nos invités parce qu'ils nous en donnent beaucoup. Il y a quelqu'un qui a voulu vous dire un petit mot. On l'a enregistré, sans vous mentir, un peu dans le brouhaha, comme on était un peu dans le brouhaha en ce moment, dans un bar.
Sont des gens joyeux.
Donc, dans ce cas-là, on se tait face à la joie et on l'accepte. On a enregistré ce petit moment, cette petite capsule de temps dans les couloirs de la maison de la radio, à côté de l'ascenseur, dans un coin. Je ne vous dis pas qui voulait vous parler, qui voulait vous dire quelque chose, mais on va sûrement réagir ensemble juste après. Il a voulu parler de vous comme si c'était la première fois.
Parlez-moi d'elle.
Instant 2.
Comme si c'était la première fois.
Alors, la première fois que j'ai entendu Kathleen Evin, j'ai d'abord été bercé par sa voix. Et je suis devenu un fidèle auditeur. Mais quand je dis un fidèle auditeur, vraiment un fidèle auditeur. Kathleen Evin, c'est l'histoire de France Inter. C'est à elle seule, c'est une entité de France Inter. C'est quelqu'un d'une intelligence rare, qui a le sens des invités et le sens de l'interview. Et après, c'est devenu, pas une collègue, parce que j'ai jamais eu la chance de travailler avec elle, mais c'est devenu quelqu'un que je croisais dans les couloirs. Et on s'est salué, on s'est parlé. Et j'ai jamais réussi à lui dire ce que je vous dis là.
Quoi ?
Que pour moi, Kathleen représente la radio. J'ai eu la chance de travailler avec une collègue à elle qui s'appelle Paula Jacques. Et ces deux personnes, pour moi, c'est vraiment... C'est toute une grande partie de l'histoire de Radio France et plus précisément de France Inter. Ce qu'il y a de bien avec Kathleen, c'est qu'elle nous emporte dans son univers et qu'on peut écouter cet univers à n'importe quelle heure. Quoi qu'il arrive, elle nous emmène, elle nous emporte et elle nous fait surtout découvrir des talents, que ce soit des musiciens, des écrivains, des cinéastes, que si on n'avait pas écouté la radio, eh ben je pense qu'une grande partie du public ne serait pas allé lire, écouter, par là où elle nous aurait guidés. Kathleen, je te souhaite encore une longue vie radiophonique.
Parlez-moi d'elle.
Instant.
Comme si c'était la première fois.
Fabrice Laigle,
ah,
producteur
Fabrice.
De réalisateur.
Mais
pardonnez-moi. Réalisateur d'affaires sensibles.
J'ignorais tout à fait que.
France Inter.
Oui.
Alors Kathleen Evin.
Qui l'écoutait. Mais je ne sais pas où mettre.
Je sais pas où mettre. Parce qu'en fait, on a changé de canapé sur Radio Grenouille.
Oui,
on est passé du
bruit.
Noir au rouge. Oui, et je trouve que c'est quand même
c'est
une couleur beaucoup
mieux,
plus sympa.
Oui. Mais je suis. Pff, là là. Je n'ai pas l'habitude qu'on me dise des choses aussi gentilles. C'est formidable, quoi. Puis, alors, à part ça. Qu'ils disent que j'ai permis à des gens de lire, d'aller au théâtre, d'aller dans une exposition, ben voilà, c'est pour ça que je bosse. C'est pour permettre aux gens de se régaler, voilà, peut-être de sortir de leur petite chambre close, d'aller vers les choses belles. Et, oui, et puis s'ils n'ont pas le temps, s'ils sont trop loin... Ça m'est arrivé une fois. La plus jolie lettre que j'ai reçue, c'était une agricultrice. Mais il y a très longtemps, qui m'a envoyé une petite lettre un jour pour me dire, voilà, je travaille sur l'exploitation familiale, je suis dans le sud-ouest, je suis à 30 km de la ville et encore, je ne sais même pas s'il y a un théâtre dans cette ville, peu importe. Mais quand je vous écoute... j'ai l'impression d'avoir lu un livre, d'avoir vu une expo,
d'avoir claqué une porte,
d'être allé au théâtre. Et je dois dire que c'est la lettre qui m'a le plus touchée, puis surtout qui est la justification de ce boulot.
De la radio.
C'est pour ça qu'on fait ça, ouais, aussi. Pour se faire plaisir, mais pour faire plaisir aux gens.
Donner l'impression à une femme, si j'ai bien compris, une agricultrice, qui plus est, de vivre par procuration, mais dans le plus joli sens du terme, en fait. Hein, parfois,
oui,
on emploie cette expression à
oui,
défaut.
Oui. D'avoir ouvert son esprit, comme lorsque nous, on est assis dans une salle de spectacle, par exemple. Ben, elle avait l'impression qu'elle savait de quoi ça parlait. Quoi.
Parfois, quand on fait de la radio, on a des moments où on n'a pas envie de prendre le micro. Ça vous est arrivé ? Ou ça a toujours été un plaisir
C'est à double détente. C'est-à-dire que si dans le quart d'heure qui précède le rouge, on me disait « Viens, va-t'en, ça fait rien, on se débrouillera sans toi », je serais ravie, puis en même temps je serais triste. Enfin, c'est très compliqué. Il y a toujours la boule d'angoisse et puis il y a le bonheur quand même d'y parvenir tous les soirs, de gravir sa petite montagne et d'arriver au sommet.
Justement, l'humeur vagabonde n'est plus le soir.
Non.
Ça vous manque,
oui.
cet esprit
oui, non,
du
mais
soir.
Ça, c'est horrible. Oh, c'est... Oui. Non, mais c'est moi qui l'ai décidé, donc je ne vais pas faire du violent là-dessus. 16 ans de quotidienne, voilà. Et puis, de toute façon, il arrive un moment où il faut décider pour soi-même. Il ne faut, faut pas laisser la décision de son avenir, de sa raison d'être. Il ne faut pas la laisser entre d'autres mains. Il faut choisir de s'éloigner. Il était temps que je m'éloigne un petit peu. Je reste avec une hebdo, alors j'ai perdu le direct, j'ai perdu le quotidien, j'ai perdu cette excitation. Mais bon, j'y trouve toujours du plaisir, et puis voilà, la vie continue.
C'est bien le dimanche aussi, à l'heure du goûter.
Non, c'est plus tôt que ça. Hein.
Du
Il
café.
Est tôt votre goûter.
Du café,
oui, du café chocolat, pas du café club.
Oh,
du café chocolat.
Dites donc, Kathleen, si vous aimez le chocolat, je peux aimer les cigarettes.
C'est vrai.
Vous avez douté à ce moment-là en prenant cette décision ?
Ah, c'est dur. Oui, non, douter. Enfin, je sentais bien qu'il fallait que je lève un peu le pied aussi, physiquement. Puis je voulais pas faire la saison de trop. J'avais fait déjà beaucoup. Parfois, je refaisais des gens que je connaissais déjà par cœur. Je me disais, bon, allez. Et puis, non, puis je crois que la vraie raison, c'est ça. Je voulais pas qu'un jour, quelqu'un assis dans un bureau directorial me dise... Oui, enfin, vous avez fait votre temps. Ça, j'aurais pas supporté. Je crois que j'aurais cassé du mobilier. Donc là, c'est moi qui le dis moi-même. Donc c'est bien.
Vous aimez pourtant les gens qui doutent.
Oui, ben c'est pour ça. Je doute toujours.
C'est votre deuxième choix de chanson.
Oui, j'adore cette chanson. Alors c'est vrai que c'est Anne Sylvestre qui l'a créée. Mais je l'ai redécouverte grâce à Vincent Delerme, Albin de la Simone et Jeanne Chéral. Et pendant des années, à l'époque où, comme on est des intermittents du spectacle, il y a toujours 3 mois très difficiles en fin de grille. On se demande si on va être reconduit et les directeurs ne nous disent pas toujours. Ils disent à ceux qu'ils aiment bien, puis ils disent pas à ceux qu'ils aiment moins. Et donc on passe des mois difficiles avec mal à l'estomac. Et cette chanson de Vincent Delerme, elle terminait toujours ma saison. Parce que ça disait des choses sur nous. Sur moi.
Ce qu'on est sûr, c'est qu'on se retrouve, nous, juste après les gens qui doutent, ça c'est une certitude, Kathleen Evin, sur Radio Grenouille dans l'instant 2.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté.
J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur, pour n'avoir pas su dire délivrez-nous du pire et garder le meilleur.
J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme, les daltoniens de l'âme, ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent, mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps. Et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs. Et qu'on les remercie, qu'on leur dise, on leur crie merci d'avoir vécu.
Merci pour la tendresse. Et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
Kathleen, c'est un beau choix de chanson d'Anne Sylvestre aussi, en tout cas son œuvre qui est mal connue d'ailleurs. Hein. Anne Sylvestre,
elle a été très connue. Et puis
aujourd'hui, un peu moins par les jeunes générations. Oui, et pourtant, on l'adore dans l'instant 2. On a écouté Non, je n'ai pas de nom avec notre dernière invitée, qui était Danielle Simonet, la porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Une femme, là aussi, Jeanne Chéral, une femme, vous, une femme, moi, une femme. Ça va, on s'en sort un peu mieux, non, côté parité ou pas? Vous qui avez été très, très engagée pour la cause des femmes.
Non, on s'en sort pas
femmes.
Du tout mieux
voilà.
Que...
Bon, bien sûr que oui, vous pensez bien que c'est une question... Inversé.
Non, mais c'est non. Puis les... on
vous êtes
voit bien.
Aussi révoltée aujourd'hui.
Ah oui, et peut-être plus. Oui. Peut-être plus, je crois. Non, mais pas seulement sur les femmes, sur beaucoup de choses. Oui, oui. Je faisais rire mes enfants parce que je leur disais, j'ai commencé ma vie comme une social-démocrate, je terminerai comme une révolutionnaire. Ça les fait rire.
Ça, c'est le côté canapé rouge en même temps sur lequel on est assis
non,
en ce
non,
moment.
C'est vraiment.
Vous êtes inquiète.
Je suis en rogne, ouais. Je suis. Ouais, ouais. Vraiment, vraiment. J'en veux tellement à la gauche du gouvernement. C'est insupportable, quoi. Ça va bien, quoi, les promesses, et puis rien après, la politique de la droite. On n'en peut plus, on crève de ça.
Vous avez écrit une biographie sur François Mitterrand, que vous avez beaucoup côtoyé.
Oui.
On peut dire connu.
Oui.
On peut dire connu.
Oui, oui.
François Mitterrand, chronique d'une victoire annoncée, c'était chez Fayard en 88, le jour de ma naissance.
Ah, vous voyez.
Incroyable. Quoi, les constellations se font souvent. Là, vous écrirez quoi sur la politique aujourd'hui? La chronique d'une porte fermée qui claque derrière nous? La chronique de...
Comment on peut pas avoir envie d'écrire sur cette politique-là? Non, il faut écrire sur les gens qui la vivent au quotidien, la politique, hélas. Non, non, c'est... Non, je vous dis, je terminerai. Peut-être je prendrai les armes.
À ce point? Mourir pour des idées, d'accord, mais de mort comment, alors?
Rapide.
Pas lente?
Non, pas lente, surtout pas.
Vous seriez prête aujourd'hui, sincèrement?
Ah ouais, non.
À être dans une forme de révolte totale?
Ah oui, oui, oui.
De revoir de révolution?
Ah oui, mais ils nous ont poussé à ça, c'est insupportable. Alors bon, c'est vrai, il faut voter, il faut espérer, il faut se battre. Mais oui, oui, pour terminer la vie, peut-être. Oui.
Quand vous faites une émission, on va dire aujourd'hui, hein, 14h tous les dimanches, L'Humeur Vagabonde sur France Inter, et d'autres projets à côté, évidemment, parce que la radio ne s'arrête pas à 14h, j'imagine, pour vous, à aussi avoir soutenu d'autres projets via la SCAM, par exemple, vous avez l'impression de pratiquer une certaine révolte poétique, radiophonique, à votre niveau, ou pas du tout? Ou alors le champ politique, là, est totalement... C'est totalement autre chose.
Non, mais
pour
vous disiez tout à l'heure que la voix ne ment pas au micro. C'est vrai qu'elle ne ment pas. Je veux dire, tous les gens qui m'ont écouté, ça va faire bientôt 30 ans que je parle dans les micros de France Inter. Personne ne se trompe sur ce que je pense. C'est impossible. Donc voilà, c'est ma seule réponse.
C'est votre seule réponse.
Oui, il n'y a pas de séparation.
Vous faites porter votre voix de toute façon.
Je ne suis pas là pour donner des leçons et pour faire des grandes digressions politiques, c'est pas ça, mais le choix de mes invités,
c'est
la façon...
C'est pour ça que je parlais de révolte poétique aussi, en choisissant des invités dans le domaine du cinéma, de la littérature, de...
Oui, j'aime bien parler avec des gens qui ont des choses à dire qui me touchent, voilà.
Ouais, la sensibilité au cœur de, cœur de la radio, de l'émerveillement aussi.
De toute façon, on peut faire que ce qu'on sait faire. j'irai vers des domaines qui ne m'inspirent pas, qui ne me parlent pas ou qui me rebutent. Ce seraient des émissions épouvantables. Donc, pourquoi se forcer ?
Vous avez raison. Vous avez déjà fait des émissions insupportables.
Alors, bah, c'est pas à moi de le dire, ça, je suppose. Je sais pas.
Vous avez, alors, je reformule, pardonnez-moi, Kathleen. Est-ce que vous avez eu le sentiment, parfois, de sortir d'émissions et d'avoir fait une émission insupportable ? Et si oui, pour quelle raison ? Parce que vous n'étiez pas en présence, vous n'étiez pas dans la... dans l'accompagnement, la mise en valeur de vos invités.
J'ai raté des émissions, mais ce qui est sympa avec les auditeurs qui ont l'habitude, c'est qu'après ils m'envoient des mails de condoléances, c'est hyper gentil, en disant on a souffert avec vous. En fait, les émissions ratées, c'est deux à chaque bout du spectre, c'est-à-dire il y en a une, je m'en souviens, avec un Italien, pourtant j'adore les Italiens.
J'ai écouté cette émission.
J'adore les Italiens. Le livre m'emballait, c'était sur des photos de l'Italie au 19e siècle. Je me régalais d'avance. Le type était imbuvable. Il n'écoutait pas les questions et il a parlé non-stop. Il était avec une jeune femme qui n'a pas pu en placer une. C'était insupportable et c'est vrai qu'au bout de 10 minutes, j'ai baissé les bras, j'ai regardé les techniciens de l'autre côté de la vitre et puis j'ai fait... Bon, allez, on continue.
Mais c'est pas une émission ratée, c'est fabuleux.
Non, c'était, enfin, c'était horrible, est-ce mais c'était drôle.
Est-ce qu'à ce
moment-là,
vous pensez à l'auditeur ?
Oui, oui, bien sûr, je pense à l'auditeur.
Aimez, et vous voilà. Vous dites, ouais. Bon, on n'y pense pas forcément pendant le direct, mais est-ce que vous dites, mais qu'est-ce qu'ils vont se dire ?
Oui, oui. Et l'autre bout, parce que j'ai eu les deux, et ça, c'était, mais ça, ça a été une expérience à la fois douloureuse et extraordinaire. J'ai eu une photographe anglaise qui fait des photos déchirantes, magnifiques, de solitude, de vide. Et qui, elle, ne parlait pas parce qu'elle ne pouvait pas. Elle était tellement bloquée dans ses émotions qu'elle ne pouvait pas.
Seule la photo pouvait parler, c'est ça ?
Voilà, voilà. J'ai compris que parfois, et c'est idiot de vouloir faire parler des artistes alors que leur œuvre parle pour eux. Et mon adorable interprète, Xavier Combes, souffrait pour moi. Alors, lui qui fait d'habitude du simultané, a commencé à essayer de faire du consécutif. Mais même ça, ça ne marchait pas. Et il y avait des silences terribles, terribles. Et puis, je ne voulais pas les interrompre parce que je savais qu'au bout de ce silence, elle dirait un mot, deux mots, et que ce seraient des mots formidables. Et effectivement, elle a réussi. Mais bon, c'était... Alors, il y a des auditeurs qui ont arrêté, qui se sont mis sur Rire et Chanson, j'espère. Et puis, ceux qui ont tenu, ils m'ont envoyé des lettres, des mails adorables en disant « On a souffert avec vous, mais ce qui est formidable, c'est que lorsqu'elle arrivait à dire quelque chose, c'était magnifique. » Voilà. Bon.
Est-ce que le silence peut parfois davantage parler que le reste en radio ?
Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Il ne faut pas avoir peur des silences. Mais ça, on l'apprend. C'est les premières années, on redoute le silence.
On comble.
Ouais. Mais en même temps, le silence. Mais surtout avec le.
Je vous donne votre thé parce qu'il va être froid et oui, ça me contrarie.
Non, j'aime pas le thé froid. Donc on va le laisser là. En fait, le silence, on le sent quand on a un peu de bouteille. C'est-à-dire qu'on sent le silence parce que l'invité a arrêté de parler et qu'il a fini sa phrase. Et puis, il y a le silence où on voit une sorte de... Comme à l'intérieur d'une montre, on voit les petits rouages qui font clic, clic, qui n'ont pas fini de tourner. Et on sait que si on attend, à ce moment-là, il répondra vraiment à la question. Et c'est généralement ce qui se passe. C'est assez intéressant de manier le silence. C'est très intéressant. C'est comme marcher sur un fil tendu entre deux tours, parce qu'on peut aussi ne rien récolter. Mais bon... avec le temps, on voit dans les yeux de l'invité. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder ses notes, il faut regarder son invité. Dans les yeux, dans les mimiques, dans les mains, on voit s'il a fini de parler ou pas.
Et on revient à la radio physique.
Ben oui.
Et à la radio qui est d'abord corporelle.
Bien sûr.
Quand vous, on peut aussi parler de transmission en radio, parce que quand on entend votre choix de chanson qu'on a écouté il y a un instant, les gens qui doutent chanter, donc non pas par Anne Sylvestre, mais par la jeune génération de la scène française, on a envie de vous demander, Kathleen Evin, voilà ce que vous avez envie de transmettre aux générations qui lisent parfois trop leurs notes en radio et qui utilisent parfois un peu trop les écrans. Est-ce que...
Oui, l'écran est mon ennemi, mais bon... J'exagère parce que je m'en sers aussi, mais non, la transmission, oui, c'est... mais à France Inter, ça existait beaucoup avant. Moi, Pierre Bouteiller m'a fait rentrer à la radio et en le regardant travailler, j'ai compris un peu comment il fallait travailler. Après, moi, j'ai eu des reporters, des jeunes reporters dans mon émission et qui sont des gens d'un talent fou et qui sont pas employés. Parce que cette transmission qui avant était le cœur même de cette radio, commence à être renié par les gens qui dirigent la radio et qui pensent que quand on a fait 3 blagues à la télé, on est bon pour faire de la radio. Et quand on a été élevé à la radio pendant des années à faire des reportages, à intervenir au micro et qu'on connaît son métier, on leur dit « allez voir ailleurs ». C'est ça la radio maintenant, la transmission devient un vrai problème.
Vous le faites, vous le transmettez de cette manière-là, vous, avec les jeunes reporters que vous citez, oui. Que vous embarquez dans l'humeur vagabonde.
Oui, j'ai toujours voulu en avoir, c'était important pour moi. Parce qu'une interview, ça se fait dans un... pas comme ici, mais dans un studio fermé à France Inter. Et je voulais à tout prix que les reporters m'apportent la vie, qu'ils ouvrent ce que je leur disais. Ouvrez-moi la fenêtre de ce studio. Je veux du son de la vie. Je veux pas du son bien léché, bien net, bien propre. Je veux la vie, les bégaiements, les bruits des gens qui passent. Et c'est comme ça qu'on aérait notre studio tous les soirs.
Vous aériez votre studio. Hein? Très joli comme expression. Ouais. Et que vous l'aérez tous les dimanches encore.
Oui, oui,
c'est
j'ai
une
gardé.
Ligne que vous avez gardée, ça,
Kathleen. Oui, c'est très important. Je me suis bagarrée pour les garder, les reporters.
Parce que c'est de plus en plus rare, vous me dites
oui,
aussi,
oui, hein, oui.
Que ce soit France Inter ou ailleurs.
Oui, ils ont tous été virés. Ouais. Oui.
On a peur de la vie, on a peur d'aérer l'espace.
Croyez. On fait une radio de talk maintenant. C'est small talks.
Si vous étiez.
On va se poser des petites questions comme ça, un peu mitraillettes, tout à fait pacifiques hein, d'ailleurs. C'est mieux. Si je vous dis rouge, vous me dites quoi? Puisqu'on est sur un canapé rouge et moi sur un tapis rouge.
Moi j'adore le rouge.
Ça vous évoque quoi?
Oui, des années des drapeaux. Des drapeaux, évidemment.
Vous
des
êtes
drapeaux
vraiment devenue une révolutionnaire.
Oui, des drapeaux rouges. Mais, mais par exemple, quand je vais dans les enterrements, je me mets en noir, mais j'ai toujours quelque chose de rouge. Une écharpe rouge, un t-shirt rouge.
C'est la vie, alors.
Pour rappeler que, voilà, il y a de la vie dans la tristesse.
Maïlys de Kerangal, Corniche Kennedy, Réparer les vivants.
Oui,
Réparer les vivants. Ça fait partie des livres qui vous ont récemment bouleversé.
Oui,
je ne vais pas vous poser la question de quel est votre livre préféré,
non,
etc.
Non, mais Réparer les vivants, c'est la phrase, je trouve, c'est tellement indispensable. On a tellement besoin d'être réparé. C'est sûr. Peut-être la littérature nous aide à ça, justement.
J'allais vous demander.
Oui.
Parce que chacun peut mettre derrière ce titre sa propre façon de réparer les vivants, celle de Kathleen Evin, ce serait quoi?
Ah, mais c'est vrai que se plonger dans un livre qu'on aime et qui vous emmène le soir quand on rentre chez soi après une journée un peu où on a avalé quand même des couleuvres, où on s'est bagarré, où tout le monde crie sur tout le monde, on ouvre un livre et on se dit bon, c'est ça aussi la vraie vie, la littérature. Faut pas croire que c'est se retirer de la vie. La littérature nous raconte tout ce qu'on doit savoir sur la vie.
Je crois qu'il y a une citation de l'écrivain américain Saul Bellow. Que vous adorez.
Oui, je l'ai beaucoup utilisé, c'est vrai. Qui dit « La littérature nous console de la méchanceté. »
La littérature est ce qui nous console de la méchanceté du monde.
Oui.
Et vous y croyez vraiment puisque...
Oui, j'y crois vraiment. Oui, j'y crois vraiment. Mais c'est une consolation éphémère, mais importante.
Bien sûr.
À force de lire des bons livres, on finit par se consoler un peu plus.
Qu'est-ce que vous lisez comme bon livre en ce moment, Kathleen Evin?
En ce moment, pas de très bon, je dois dire.
On reste sur Réparer les vivants.
Non, c'est pour ça que je me replonge régulièrement dans des choses. J'ai les livres qui sont dans ma chambre et quand j'en ai marre, je balance un livre mauvais que je lis parce qu'il vient de sortir et que je me demande si je vais faire quelque chose. Si, alors, je suis injuste. Récemment, mais je l'ai lu, donc c'est pas en ce moment. Je l'ai lu, j'ai même fait une émission dessus. Il y a un très bon livre qui s'appelle « Vie de ma voisine » par Geneviève Brisac, qui est paru aux éditions Grasset. Et elle nous raconte la vie de sa voisine, qui s'appelle Jenny Plocky, et qui est née en 1926, et qui est une femme formidable.
Elle l'est aussi, alors.
On y revient, voilà. Et autrement, évidemment, Virginia Woolf, Marcel Proust, enfin, vous connaissez tout ça.
Tout ça.
Si vous étiez
un rêve de gosse, tiens, je me posais la question. Réaliser ou non?
Faire le tour du monde en bateau à voile.
Oh! Vous l'avez jamais fait?
Non, j'ai fait beaucoup de voile, mais j'ai pas fait le tour du monde en bateau à voile. J'ai pas eu le temps.
Il faut y aller, Kathleen. Qu'est-ce que vous faites encore là? Sur le canapé rouge.
C'est-à-dire que maintenant, j'aurai un peu de mal à...
Mais tous les dimanches, il faut que vous soyez à France Inter.
Ouais.
Comment vous nous emmenez sur un bateau toutes les semaines, après on s'en sort plus? Vous avez peur parfois que vos auditeurs, quand vous serez plus là, au micro, tout simplement, puisque vous auriez juste envie de partir faire le tour du monde en bateau, d'abandonner, en quelque sorte.
Mais
les
on les abandonnera forcément, toujours, un jour.
Ça vous fout la trouille ou pas?
Ah non.
Non.
Bah non.
Vivez bien.
Bah, de toute façon, on est là de passage. La radio, c'est éphémère. Il faut pas la garder. Il faut garder des souvenirs. C'est différent.
L'instant 2.
Instant 2.
Sur Radio Grenouille.
Vous allez rencontrer quelqu'un.
Et vous m'aviez demandé un petit texte, mais vous en voulez pas.
Bah si, en fait. Vous voulez bien?
Bah ouais.
On peut conclure comme ça, ouais, aussi.
J'ai découpé ça, parce que parfois je découpe les choses qui m'intéressent.
Vous avez découpé ça dans le journal?
J'ai découpé ça dans le journal, parce que moi je lis le journal en papier.
Et regardez, moi j'ai un carnet.
En papier. C'est incroyable. Je ne lis pas le journal sur les écrans, je ne peux pas.
Vous avez bien raison.
Et j'ai découpé un tout petit texte, parce que voilà, je déteste les pétitions. Je refuse toujours de signer les pétitions, ça m'exaspère, ça ne sert à rien. Bon, ça fait plaisir aux gens qui signent. Après, tout le monde se précipite sur la liste des signataires pour voir qui a signé. Et là, c'était un tout petit texte qui est signé par des personnes que je connais, que j'aime plutôt bien. Annie Ernaux, Éric De Luca, Georges Kiechmann et Jean-Marc Salmon. Et ça s'appelle « À tous ceux qui tendent la main aux réfugiés ». À tous ceux qui sont inculpés par la justice, mille merci. Merci à ceux qui vous entourent, aux citoyens et aux associatifs de Vintimille, de Nice et d'ailleurs. Les citoyens de la vallée de la Roya, comme de l'île de Lampedusa, mettent en pratique la liberté de passage et de sauf-conduit pour ceux qui s'échappent des destructions de leur foyer, de leur terroir, de leur ville. Ils mettent en pratique l'égalité avec des êtres humains réduits en plein XXIe siècle à voyager comme une marchandise cachée. Ils mettent en pratique la fraternité indispensable à la constitution civile de la communauté Europe. Merci de faire face à des lois contraires au sentiment d'humanité. Voilà, c'est court, c'est bien. Ils demandent à personne de signer, mais ils demandent aux gens de le lire et de réfléchir.
Ce que vous venez de faire, Kathleen Evin, ça me rappelle un manifeste sur la prostitution aussi, non? Vous vous souvenez? Il n'y avait pas Annie Ernaux là-dedans.
Un manifeste sur la prostitution?
En 2009.
Ah non, 2009, c'était pas...
C'était pas ça.
C'était pas des textes qu'on nous avait demandé d'écrire.
Il me semble.
Ouais. Oui, c'était pas un Oui, enfin, c'était un petit livre.
Un petit livre. Avec le monde.
Voilà, et chacun faisait...
Il y avait déjà Annie Ernaux.
Faisait un petit texte, ouais.
Annie Ernaux était là.
Ouais.
Était là, dans la place.
Ouais.
Pour reprendre le titre de son ouvrage.
Ouais, ouais.
Dans la place et les années qui passent n'ont pas entaché votre enthousiasme en tout cas et votre humanité. Donc merci beaucoup.
Ben merci Mélanie
d'avoir été avec nous sur
ce
Radio
déluge
Grenouille.
De gentillesse. Je repars comme une guimauve.
Alors bonne route en guimauve, Kathleen Evin.
J'espère que je ne rencontrerai pas des policiers parce que peut-être je vais conduire comme une guimauve aussi.
Oh non, me dites pas ça. Vous allez distribuer des câlins et de l'amour,
voilà,
comme on en
absolument
a beaucoup besoin. On aurait pu parler de tout un tas de sujets, évidemment. Encore du féminisme, du délit de solidarité aussi, de la politique. Mais je crois que l'essentiel a été dit, comme l'essentiel de la radio et de la radio que vous faites. Donc merci beaucoup d'avoir été notre invitée.
Merci à vous de faire de belles émissions comme ça et puis d'habiter Marseille, chanceuse.
Vous venez quand vous voulez en mode guimauve, comme
d'accord,
on dit.
D'accord.
Merci Kathleen.
Au revoir.
L'instant 2 sur Radio Grenouille.